au conseil municipal. Et on va commencer par faire l'appel. De vous, c'est Brigitte, présente. Capo Bernard.
Présent.
Georgie Thierry.
Présent.
Jeanne Alain.
Présent.
Cabas Marie-Hélène. Chrétien Steve.
Présent.
Rouquayrol Béatrice.
Présent.
Depont Jean-Pierre.
Présent.
Barascu Bruno.
Présent.
Baye Bruno.
Présent.
Michel Premier représenté par M. Chrétien. Christian Crespi.
Présent.
Valérie Bombert représentée par Mme Giorgetti. Frédéric Guédan.
Présent.
Véronique Jeannin.
Présent.
Hélène Griffol.
Présent.
Olivier Masson, représenté par Frédéric Guédan. Christian Raymond.
Présent.
Sophie Rivin.
Présent.
Marie Lisser.
Présent.
Michel Thomas.
Présent.
Sabine Tourlier.
Présent.
Michel Bourrelli.
Présent.
Jasmine Miriam.
Elle arrive.
Jean-Marie Prosperi, représenté par Michel Bourrelli. Jean-Paul Bord. Céline Delin. Le quorum est atteint, on va pouvoir délibérer.
Nous allons approuver le PV du conseil municipal de la fois dernière. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV ?
Pour le 14 avril, il y en a trois.
Et ensuite, pourquoi ces manières de couper entre les trois audios qui peuvent nuire à la bonne compréhension des interventions? Un exemple concernant la question orale et supplémentaire sur l'article à bonne compagnie qui avait été soustrait du bulletin municipal. Je regrette que ce point que j'ai soulevé en fin de conseil municipal n'ait pas été entièrement retranscrit dans l'audio partie 3, qui fait seulement 9 minutes et 43 secondes, pour une bonne compréhension, puisque la question posée a été placée à la fin de l'audio partie 2, qui est d'une durée totale d'une heure, 2 minutes et 6 secondes exactement. Vraiment, là, je ne comprends pas votre façon de faire, j'attends de soustraire l'information à ceux qui la lisent véritablement. Merci, c'est tout pour ce PV.
Merci, madame, monsieur. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui n'approuve pas donc, ce PV? 2 contre. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, dans l'ordre du jour, vous l'avez tous reçu. Tout le monde approuve l'ordre du jour. Vous avez aussi des remarques à faire sur l'ordre du jour. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité. On va commencer donc par le premier point, le compte épargne temps qui va être présenté par M. le DGS.
Mesdames, Messieurs, à notre arrivée, au niveau du compte, au niveau de la collectivité, les agents de la collectivité m'ont fait état.
Excusez-moi, nous n'avons pas élu le secrétaire de séance.
Oui.
Excusez-moi, donc monsieur, je vous propose M. Bail comme secrétaire de séance ce soir. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité? Non? À toi la main.
Merci, je reprends la parole. Donc, les agents de la collectivité m'ont fait part de leurs soucis quant au suivi de leur congé, notamment de leur congé annuel. Il est vrai que dans la fonction publique, de manière générale, de manière assez globale, les administrations se dotent de ce qu'on appelle un compte épargne temps qui permet aux agents publics d'épargner les congés qui n'auraient pas été pris sous la condition d'avoir pris 20 jours annuels dans l'année. Donc, un agent public qui ne prend pas au-delà des 20 jours qu'il pose son total congé a la possibilité d'épargner sur un compte épargne temps. Je dis bien que c'est une possibilité, c'est une faculté qui lui est tout à fait ouverte, ce n'est pas une obligation, d'épargner ses congés non pris sur ce compte épargne temps. La collectivité n'était pas dotée de ce dispositif et c'est vrai que l'ensemble des agents, après discussion avec eux, nous ont demandé la possibilité d'ouvrir un compte épargne temps, en tout cas la collectivité délibère en ce sens. Encore une fois, c'est une faculté qui leur est ouverte, ce n'est pas imposé, et ça permet aux agents qui souhaiteraient, dans un avenir, avoir une mobilité en dehors de la collectivité, de faire en sorte que leur congé non pris les suive. C'est vraiment le gros avantage de la mise en place d'un compte épargne temps. En résumé, que vous partiez, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, le compte épargne temps vous suit tout au long de votre carrière. La collectivité a fait le choix que ce compte épargne temps soit pris sous forme de congé. Il y avait en gros deux possibilités. Soit l'agent se faisait rémunérer ses congés non pris, soit l'agent peut prendre les congés non pris, sous demande et sous réserve des nécessités d'organisation de services, bien évidemment. La collectivité, compte tenu de la masse salariale et du poids de la masse salariale, vous comprendrez, a fait le choix de la prise de jour de ses congés de manière effective si l'agent le demande, et non pas de la rémunération. C'est ce qui fait que vous avez l'article 1. La demande d'ouverture du compte épargne temps doit être effectuée par écrit auprès de l'autorité territoriale, c'est une faculté. Article 2, le compte épargne temps peut être alimenté par le report d'une partie des jours de congé annuel sans que le nombre de jours de congé annuel pris par l'année puisse être inférieur à la règle 1. L'alimentation du compte épargne temps doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant le 31 janvier de l'année N. Article 3, les jours accumulés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés uniquement sous forme de congé. Dès lors, nous vous demandons, pour les agents de la collectivité de Montferré-sur-Lez, de bien vouloir délibérer en ce sens. Je vous remercie.
Est-ce que vous avez des questions? Sinon, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.
Je vous remercie pour les agents. Deuxième point, la taxe locale sur la publicité extérieure. Alors, je m'excuse de la technicité de cette délibération. Je vous avoue et que je vais vous épargner de rentrer dans le détail technique de celle-ci, parce que moi-même, je rencontre quelques difficultés à une certaine compréhension. Et celle-ci a été travaillée en lien avec l'expertise des services de la métropole. Pourquoi la mise en place de la TLE? Pour deux raisons. Première raison, une raison d'esthétique. Il est vrai qu'il faut préserver nos villages, nos paysages, de la propagation et de la diffusion d'une certaine publicité qui serait polluante à notre regard. Deuxième raison, c'est la mise en place d'un règlement local de la publicité intérieure par la métropole. Je pense que vous avez vu cette information dans la presse. La métropole a voté ce point-là récemment. Dès lors, l'ensemble des collectivités appartenantes à la métropole ont pour objectif de rentrer dans ce RLPI et de mettre en place la taxe locale sur la publicité intérieure, extérieure, sur les enseignes. Donc, cette taxe, elle vise deux supports, ce qu'on appelle la publicité et les enseignes. De ce que j'ai compris, de ce que nous avons compris, les enseignes sont, on va dire, les petits commerces, les artisans, et les publicités, on va dire, que ça vise les grosses pancartes de publicité pour les grosses enseignes. Ça permettrait aussi, c'est une troisième raison, de faire entrer un peu plus d'argent dans les caisses de la collectivité. D'abord, également, c'est en réglementation, parce que vous avez vu que les enseignes et les publicités sont ponctionnées selon des superficies, et selon, en gros, superficie inférieure ou égale à 12 mètres carrés, supérieure à 50 mètres carrés pour les enseignes. L'ensemble des tarifications ont été prises et ont été travaillées avec les services de la métropole et sont réglementaires. Voilà. Donc, vous avez cette délibération qui vous est proposée avec les éléments réglementaires en termes de tarification. Et donc, on vous propose de délibérer en ce sens. Je vous remercie pour votre attention.
Que vous avez des questions?
Oui, j'ai des questions parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. La première chose, c'est d'une part que... Non, ça va, c'est pas grave. La première chose, c'est les tarifs sont fixés en accord avec la métropole, où ce sont des tarifs qui sont libres et que la commune fixe.
Alors, en fait, ils sont... c'est la métropole qui a fait le lien avec nos services pour nous expliquer sur quelle base réglementaire on pouvait s'appuyer. Donc les tarifs ne sont pas libres, et en gros, ils sont réglementés. Donc ça, je pourrais vous envoyer éventuellement la réglementation si vous le souhaitez, bien évidemment.
Y compris les coefficients multiplicateurs qui sont dans le tableau.
Tout à fait.
D'accord. Alors, quand j'ai lu ce règlement-là, je me suis dit, mais en fait, vu les exonérations, qui va payer dans la commune? Parce que je vois... D'une part, il y a deux. Il y a, enfin, après le tableau des montants, enfin, il y a deux phrases,
oui,
avec deux items. L'un, c'est de ne pas appliquer d'exonération ou de réfaction sur ces tarifs. Et la phrase après, c'est d'exonérer, en application de l'article L23, je sais pas, du Code général des collectivités territoriales, à hauteur de 50%. Donc, on exonère ou on exonère?
Alors, d'exonérer, vous avez vu, après, vous avez toute une série d'enseignes, de préenseignes avec des superficies. Encore une fois, c'est très technique, et il y a des éléments sur lesquels je ne pourrais pas vous répondre là précisément. Mais en gros, c'est aussi pour... Il y a deux éléments, c'est se prémunir dans l'avenir, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas qu'on impacte aussi tous les petits artisans, ou en tout cas toutes les petites enseignes qui seraient apposées. Donc il y a cet élément à avoir en prise de compte. Après, sur des éléments plus techniques, je pourrais vous envoyer la documentation qui nous est communiquée par les services qui ont travaillé sur ce point dans la métropole.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, ça me... par rapport à la décision, nous devons la prendre maintenant, de toute façon. Mais d'accord. Non, parce que je me suis demandé, effectivement, quand je vois plus de 12 mètres carrés, moins de 12 mètres carrés, je me suis dit, mais il n'y a personne qui va payer sur la commune complète, en réalité. À part les préenseignes, mais les préenseignes, il faut que ce soit, je ne sais plus combien, égal à 5.
Supérieur à 1,5 mètre carré, préenseigne inférieur ou égal à 1,5
mètre. Personne ne va payer, quoi.
Tout à fait. Alors après, hein, encore une fois, c'est pour s'adapter par rapport au réel pays qui a été adopté au niveau métropolitain. Et c'est pour se prémunir aussi dans l'avenir.
Oui, ça je comprends. Se prémunir, je comprends. D'accord.
Tu as d'autres questions ?
Non,
encore une fois,
on ne sait pas comment Montferrier va évoluer si demain on n'aura pas une zone quelconque qui naîtra. Voilà. On va passer au troisième point de l'ordre du jour. Ah pardon, excusez-moi. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le troisième point, la taxe.
Alors, la taxe locale sur la consommation finale d'électricité. Donc, on parle depuis longtemps de la taxe sur les fournitures d'électricité qui avait été instituée il y a quelques années à Montferrier, autour de 4%, qui avait en principe été récupérée par la métropole et on avait la possibilité de la conserver. Et donc, on l'avait conservée sans toucher au taux. Et depuis déjà plusieurs années, c'est quelque chose dont on parlait chaque fois, de savoir si on allait l'augmenter ou pas. Bon, aujourd'hui, cette taxe est remplacée par une nouvelle taxe qui s'appelle la taxe locale sur la consommation finale d'électricité, TCFE, et qui, en fait, va être recouvrée maintenant par l'État et plus par les collectivités. Donc, le fait que l'État recouvre cette taxe, il est prévu que dès l'année 2011, elle passe à 8%, pardon, 2012 à 8%, et ensuite à 6%, et ensuite à 8,5%. 2022-2023. Donc, écoutez, on vous propose simplement d'anticiper une année, hein, puisque de toute façon, l'année prochaine, elle passe de 4 à 6, et ensuite elle va passer donc, à 8,5. Donc, c'est simplement, on avance d'une année pour normaliser, et puis ça nous fera quelques recettes supplémentaires. La seule chose dont on peut s'inquiéter, c'est que comme ça devient une recette de l'État, on s'est aperçu, comme les dotations globales, etc., que pour les versements, on met des critères qui sont parfois le revenu fiscal par habitant, le nombre de logements sociaux, etc., etc., de façon à favoriser des communes qui en ont peut-être plus besoin. Et donc, il se peut que dans le temps, on ne recouvre plus la totalité de cette taxe, mais qu'une partie. Ça, on le verra. On ne va pas faire un procès d'intention à l'État. Mais en tout état de cause, bon, on vous demande simplement donc, d'avancer d'une année, c'est-à-dire que les 2,5% qui sont prévus l'année suivante, qu'on les affecte dès l'année prochaine. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Actuellement, la taxe nous rapporte à peu près 60 000 euros par an. Donc, elle est à 4%, donc si vous voulez, donc à partir des années prochaines, eh bien, on va passer de 60 à 80, et après, ça fera à peu près le double de ce qu'on a encaissé aujourd'hui. Évidemment, ça sera une recette pour la commune qui nous servira effectivement pour nos dépenses et nos investissements. Pas d'autres questions ?
Si j'ai une question.
Si ma question, effectivement, c'est ce dont tu viens de concerner ce que tu viens de dire à la fin. C'est-à-dire que ça me permettre d'envisager des investissements dans le futur. Nous, on envisage de voter, de nous absenter sur cette question, comme sur la suivante, parce que, alors qu'on l'a demandé plusieurs fois, nous n'avons aucune discussion sur les finances de la commune sur les 6 ans à venir. Il y a des informations qui sont données sur les finances actuelles, sur les taxes, comme tu viens de dire là, mais on n'a aucune visibilité. Tu m'as expliqué la dernière fois que tu avais travaillé
sur un projet de finances sur les 6 années, mais on ne sait pas pour quel projet. Donc là, on va avoir des recettes qui vont augmenter. Pourquoi faire? On n'en sait rien. Donc voilà, tant qu'on n'est pas associé à ce genre de discussion et qu'on ne peut pas apporter éventuellement des propositions sur ces questions-là, ben, nous, on continue à s'absenter. C'est dommage. C'est dommage parce que nous, même si nous sommes dans l'opposition, à partir du moment où nous sommes ici, nous sommes des élus comme vous tous. C'est-à-dire, nous avons le droit à l'information et vous avez le devoir de nous impliquer dans les discussions concernant les projets de la commune. Je veux dire, on est élus comme vous, même si on a moins de pouvoir, mais nous sommes élus de la même façon. Et le fonctionnement démocratique permettrait d'engager ce genre de discussion. Et pour ça, en tout cas notamment pour les finances, mais pour d'autres questions parfois aussi, ben, voilà, on trouve que ça ne fonctionne pas comme il faut. Voilà.
Alors, je te répondrai très facilement, hein, c'est que justement, puisque c'est Jean-Marie Prosperi qui fait partie de ma commission, on a prévu de se voir en septembre pour terminer le pluriannuel ensemble. Donc, j'ai répondu à ta question.
D'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité.
Bien. Alors, on va passer donc à la question 4. C'est l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB. Alors, la réforme fiscale a supprimé la taxe d'habitation. Donc, pour compenser aux communes cette perte de recettes, la commune perçoit depuis cette année la part départementale du foncier bâti, avec une application de coefficient correcteur, puisque dans le cas qui nous concerne, la part départementale excède la part de la taxe d'habitation que nous percevions avant. Donc on a une somme qu'on reverse pour équilibrer, puisque ça doit se faire dans le cadre d'une neutralité fiscale. Comme vous le savez, cette année, quand on a voté le budget, on a légèrement augmenté de 2 points le taux de la taxe du foncier bâti. Par contre, ce complément de recettes est acquis à la commune. Là, c'était en 1900, je vais vous dire parce que je me trompe dans les années, donc je fais attention. Donc le 4 juin 1992, l'État ayant supprimé l'exonération de 2 ans sur la taxe foncière, c'était en fait une perte pour la commune puisqu'elle n'était plus compensée. Donc à l'époque, ça remonte. M. Sobeski, le conseil municipal avait décidé de supprimer cet abattement. Donc aujourd'hui, les nouvelles constructions ne bénéficient pas d'une exonération de 2 ans du foncier bâti concernant la commune. Par contre, le département, lui, appliquait cette exonération. Il se trouve que donc, nous récupérons donc cette part-là et nous avons la possibilité de limiter cette exonération de 40% à la totalité. Nous avons fait le choix d'exonérer au minima, c'est-à-dire de 40%. Voilà. Donc, ça fera un petit complément de recettes qui sera le bienvenu. Voilà. Puis, on considère aussi que les personnes qui arrivent sur Montferrier, eh bien, il faut qu'elles contribuent, si vous voulez, puisque quand elles arrivent, ça crée des besoins divers. Et qu'il est normal qu'elle contribue comme les autres personnes en payant une taxe foncière normale. Voilà. Des questions? Pas de questions? Donc on passe au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention? 4 abstentions?
5.
Rien?
5.
5 abstentions?
Je ferai juste une remarque quand même, c'est que quand on fait des commissions en finance, je pose la question en demandant si cela vous convient, Alors je suis un peu surpris qu'en commission en finance, tout le monde est d'accord et qu'au conseil municipal, on s'abstienne ou on vote contre. C'est un peu désagréable. Je
je passe au point suivant. Il s'agit de la décision modificative numéro 1. Il s'avère que nous avions prévu, dans les charges exceptionnelles, un montant de 10 000 euros qui devait servir à payer l'indemnité que nous devions au consort français concernant le relais télévision. Bon, ça vous est parfaitement courant, puisque on l'a déjà évoqué précédemment, donc je ne m'étendrai pas dessus. Il se trouve que l'imperception, sans nous le dire, on avait reçu dans des recettes une petite recette d'Enedis qui ne nous concernait pas, qui faisait 221 euros et des poussières. Et donc, du coup, on n'a pas pu payer la totalité de l'indemnité à Française. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'abonder le compte 67, charges exceptionnelles de 2 000 euros, de façon à laisser un petit delta s'il y avait quelque chose à rembourser, et de l'affecter au virement de la section d'investissement. Et ensuite, le percepteur nous a fait remarquer que dans le compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé, il y avait un doublon de 37 506. C'était une opération d'ordre, ce n'était pas une opération financière, c'était une opération qui concernait la neutralisation des ACI converses à la métropole pour pouvoir abonder au budget de la voirie. Donc effectivement, c'est une écriture très complexe et il y avait cette somme qui avait été portée à tort. Donc, du coup, on vous demande effectivement de la réduire et la totalité de ces 2000 plus ces 37 906, on les affecte en diminution du compte 23 immobilisation en cours, qui est un compte d'attente, hein, puisqu'il n'est pas utilisé, de 39 506. Voilà, c'est juste une régularisation pour qu'on puisse payer M. Français et puis de supprimer cette écriture qui fait doublon.
Vous avez des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Le point 6 de l'ordre du jour, ce sont les tarifs de la restauration scolaire. Je laisse la parole à M. Chrétien.
Bonsoir à tous. À partir du 1er septembre, nous allons changer de prestataire pour la restauration scolaire. Ce nouveau prestataire va être un peu plus cher que celui que nous avons actuellement. Du coup, il nous semblait logique d'augmenter les tarifs de la restauration scolaire qui n'avaient pas été augmentés en plus depuis 2018. Nous n'avons volontairement pas créé de tranches supplémentaires, nous en avions discuté en commission affaires scolaires et finances. Jean-Marie nous avait interrogé sur ce point. Nous lui avions dit que ce n'était pas notre façon de voir les choses et que nous préférions faire une augmentation de tous les tarifs, mais une augmentation progressive, c'est-à-dire de ne pas appliquer la même augmentation à tout le monde. Donc le tarif le plus bas actuellement à 2,35€ va passer à 2,45€, 10 centimes de plus. Le deuxième tarif à 3,20€ va passer à 3,40€, une augmentation de 20 centimes. Et enfin le quatrième tarif, 4,25€, va passer à 4,65€, donc une augmentation de 40 centimes. Le fait que le nouveau prestataire soit plus cher, ça tient au fait qu'on repasse sur 5 composantes. Puisque c'était une demande qui nous était remontée de la cantine et des enfants. Donc forcément le tarif augmente hein, avec une composante en plus. Et on a aussi un traiteur qui sera de bien meilleure qualité qu'il ne l'est aujourd'hui. Marine Serre et Myriam Gelsomino ont eu l'occasion de se déplacer avec moi pour le tester. Donc voilà. Je voudrais apporter une modification aussi sur cette délibération, puisqu'il y a un oubli. Nous souhaitons mettre en place une pénalité d'€1,50 pour réservation tardive des repas. Vous l'avez certainement lu dans le règlement intérieur, dont on va parler juste après. Nous avons prévu cette pénalité. En fait, cette pénalité, elle a pour objet de couvrir les dépenses, les surcoûts que vont engendrer pour la commune des réservations tardives de repas. Puisque à compter de la rentrée, il faudra réserver au minimum 7 jours à l'avance la cantine. Donc l'idée, c'est de mettre en place cette pénalité pour que les parents prennent l'habitude de bien faire leurs réservations en temps et en heure. Je tiens à préciser que, comme je l'avais dit en commission Affaires scolaires et finances, cette pénalité ne sera pas appliquée du mois de septembre au mois de décembre pour que laisser un temps d'adaptation justement aux parents, et que nous ne comptons l'appliquer qu'à partir du mois de janvier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Nous, c'est toujours le même. Tu l'as soulevé tout à l'heure, on n'est pas d'accord avec les tranches.
Bien sûr.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a un coefficient inférieur ou égal à 7 000 euros, c'est quelqu'un qui gagne à peine le SMIC. On ne peut pas lui faire payer la même chose que quelqu'un qui gagne deux fois plus. Donc, on n'est pas d'accord avec ça, mais c'est une question de point de vue. On n'est pas le même, voilà, et on se confronte à ça depuis longtemps.
On a eu l'occasion d'échanger avec Jean-Marie sur ce point, bien évidemment, et effectivement, nous étions convenus que c'était des points de vue différents de votre part et de notre part.
Pour l'équipement de l'école élémentaire en informatique,
L'idée étant que tous les enseignants bénéficient à tout le moins dans leur classe d'un TBI et d'un ordinateur portable. En plus, nous souhaitions mettre à disposition une classe mobile. Alors, une classe mobile, c'est des ordinateurs qui sont rangés dans une grosse boîte et qui est sur roulette et qui permet de naviguer entre les salles. Comme ça, les enseignants peuvent donner des cours d'informatique à leurs élèves, chose qui aujourd'hui n'est pas fait en férié, puisqu'il n'y a pas ni de salle informatique au sein de l'école, ni de matériel nomade tel cette classe mobile. Du coup, nous avons obtenu une réponse favorable à notre demande de subvention. Nous avons estimé sur la base des devis que nous avions fait faire la dépense à 30 000 euros et 23 000 euros de subvention nous ont été accordés. Il nous est demandé du coup d'autoriser Madame le maire à signer cette convention que j'aurais bien voulu pouvoir vous fournir, mais je ne l'ai pas encore, donc dès que je l'aurai, je vous la transmettrai. C'est quelque chose d'assez simple. Hein. Le but de cette convention, c'est surtout d'assurer l'auditabilité des dépenses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Huitième point, le règlement intérieur de la restauration scolaire et l'olivier ainsi que l'espace jeune.
Alors, avec la mise en place aussi bien du nouveau traiteur à compter du mois de septembre que du nouveau logiciel de réservation de la cantine, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas de règlement intérieur au sein du service de restauration scolaire et que c'était une obligation. Donc du coup, le but de ce règlement, c'est de pallier ce manque. Je m'excuse d'ores et déjà pour ne pas en avoir parlé avec aussi bien Myriam et Céline en commission affaires scolaires. Pour une raison très simple, c'est que nous en sommes rendus compte tardivement qu'il a fallu qu'on aille vite, qu'il n'y a qu'un seul conseil municipal avant la rentrée et que nous devions absolument le placer en conseil municipal. J'imagine que vous avez peut-être des points à aborder. Donc je vais vous laisser la parole parce que j'imagine que vous l'avez lu. Et voilà.
Alors.
Bon, je suppose que le travail que vous avez fait sur ce règlement intérieur concerne essentiellement une partie des articles qui sont dans le règlement, je pense aux e-tickets, etc. Parce que je pense que ce règlement aurait besoin d'une série de pilotages, notamment par un certain nombre de points que je vais vous dire. Le premier point, c'est le point 6.2. Je ne comprends pas cette priorisation qui sont faites. En cas de difficulté d'accueil due à un accroissement important et inexpliqué des effectifs, seront inscrits en priorité les enfants dont les deux parents travaillent, les parents sont en formation, les parents sont malades ou en recherche d'activité. Étant en 3, comme si c'était des fainéants ou comme s'ils le faisaient exprès. C'est vraiment, je trouve, c'est un état d'esprit, ça, qui est contraire complètement à ce qu'on y a. Je préférais que, par exemple, là, il soit marqué qu'il y a une liste d'attente et que les gens s'inscrivent au fur et à mesure, mais qu'on ne fasse pas de priorisation. Pourquoi quelqu'un qui est en recherche d'emploi ne serait pas aussi prioritaire qu'un parent qui travaille? Imaginons que cette personne-là, au moment où qu'elle soit en rendez-vous pour rechercher un emploi, pourquoi elle ne serait pas au même titre prioritaire que de travailler. Ça, je trouve que vraiment, c'est pas le bon état d'esprit. Donc ça, je pense qu'il faut le toiletter sérieusement. Et alors, il y en a un autre, alors, c'est un morceau d'anthologie. C'est le point 9.6. Les enfants doivent, en sortant de classe, se présenter dans le personnel municipal en charge de la surveillance, etc. Et il y a les sanctions disciplinaires qui sont attribuées à si jamais... je ne sais pas, il peut être dans la salle sans s'être lavé les mains, se lever les tables sans autorisation. Moi, je pense que les enfants ne signent pas avec le règlement intérieur. Donc, dire les enfants doivent, ça, je pense que c'est une erreur, qu'il faut inciter les parents et les éducateurs à faire en sorte que les enfants aient une attitude civique. Et que ce n'est pas en écrivant les enfants doivent sortir de classe que, en sortant de classe, doivent se présenter dans la cour de personnel, qu'ils le feront malgré tout. Si les parents et les éducateurs de ces enfants n'ont pas fait le travail qui peut leur permettre de comprendre que quand on est en collectivité, on se doit d'avoir une attitude qui correspond à une attitude en collectivité. Quoi. On est respectueux, on fait attention, effectivement, on se lave les mains, on ne fait pas la baguette partout, on ne lance pas de la bouffe sur les copains, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est la façon dont c'est écrit là que ça fait très bizarre. Quoi. Et encore une fois, les enfants ne signant pas ça, vous ne pouvez pas obtenir ça des enfants. Vous ne pouvez l'obtenir que si leurs éducateurs ont fait le travail nécessaire pour qu'ils se comportent comme il est normal, parce que je trouve que ce qui est écrit, c'est normal. Je ne suis pas contre ce qui est écrit. Hein, que les enfants se comportent comme il faut, qu'ils respectent les gens, encore que l'histoire du respect, c'est encore le directeur même de l'école maternelle me dit, moi, je demande à ce que les enfants respectent les adultes respectables. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est la façon dont ça rédigé, il me semble être un truc d'une autre époque.
On a Michel, le règlement intérieur, il est signé par les parents, hein. Il n'est pas signé par les enfants.
Oui,
il est signé par les parents. Et
je
là,
sais bien.
Dans le règlement intérieur, on rappelle justement aux parents ce qu'ils ne mettent pas en pratique à l'école. Parce que si l'intérêt, c'est de rappeler aux parents que. Ils doivent éduquer leurs enfants, mais on ne peut pas se permettre de leur dire. Mais on fait passer des messages en disant, attention, il est important que vos enfants, quand ils sont à l'école, ne jettent pas la nourriture sur le copain. Mais ça, c'est les parents qui doivent leur apprendre.
Oui,
donc c'est juste un rappel de ce qui doit être fait. Et comme les parents le signent, normalement, ils s'engagent à le respecter.
Mais tu vois, tu as employé des mots qui me semblent plus justes que la façon dont c'est écrit. Il est important aux parents de rappeler aux enfants qu'ils doivent. Ça me semble juste. Voilà. Mais les enfants doivent, pour moi, ce n'est pas juste. On n'obtiendra rien en faisant comme ça. On l'obtiendra si on mobilise les parents et les éducateurs des enfants. C'est juste une question de la façon dont c'est présenté.
Juste
aussi une formulation sur l'âge. Le point 3.3, le recours au service municipal de restauration scolaire avant 3 ans et à 3 ans doit être dicté par la nécessité, emploi du temps des parents, etc., car les journées sont fatigantes pour les enfants de cet âge. En discutant avec le directeur à l'inscription de mon garçon qui va rentrer à l'école maternelle, il était beaucoup plus nuancé dans cette approche de la cantine, et notamment du fait de rester l'après-midi, en insistant plus sur le fait de s'adapter au rythme de l'enfant, ce qu'il avait connu avant aussi, s'il avait été ou non en collectivité, et dans tous les cas, d'essayer de faire au mieux, mais pas en fonction d'un âge. Et en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça, à la lecture, un peu plus culpabilisant de dire si je le mets alors qu'il a 3 ans, en fait, c'est absolument obligatoirement fatigant pour les enfants de cet âge. Je trouve que c'était un petit peu... Voilà.
C'est démontré hein, pour les médecins. Hein. C'est démontré hein, qu'avant 3 ans, jusqu'à 3 ans, les journées à l'école sont très fatigantes. C'est démontré. Hein. Ça, c'est... Alors après, bon, on l'accepte, on ne l'accepte pas, on a des nécessités du travail, on a tout ça est entendable, hein. Il n'y a aucun problème. Mais je pense que cette phrase, elle permettait de rappeler aux parents que avant 3 ans et jusqu'à 3 ans, s'il y a la possibilité de faire autrement, c'est-à-dire de ne pas mettre ses enfants à la cantine pour avoir une coupure pour les enfants, c'est intéressant pour eux.
Mais c'est pas marqué jusqu'à 3 ans, c'est à 3 ans. Enfin, du coup, c'est de 3 à 4 ans.
Avant 3 ans et à 3 ans.
Oui, oui. Mais
c'est pas jusqu'à 4 ans, c'est avant 3 ans et à 3 ans. C'est vraiment 3 ans étant l'âge pivot à partir duquel on met son enfant à l'école ou on ne le met pas à l'école. Enfin, après, l'interprétation des phrases, c'est toujours très subjectif.
Oui, mais j'aurais en tout cas plus autorisé et montré qu'il n'y avait aucun problème pour expliquer la raison pour récupérer un enfant sur le temps de la pause méridienne, en incitant, en expliquant les choses, plutôt que de marquer « doit être quitté ». Voilà, je trouvais ça assez...
doit être dictée par la nécessité. Pas doit être dictée, doit être dictée par la nécessité. Donc si la nécessité fait dire que les parents travaillant tous les deux, il est impossible de laisser l'enfant, c'est une nécessité, donc l'enfant restera et il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez garder votre, ou reprendre votre enfant parce que vous ne travaillez pas, par exemple, c'est sûr que c'est mieux pour l'enfant. Et c'est démontré. Voilà.
Ce d'autant qu'aujourd'hui, enfin, pour compléter ce propos, on sait qu'on a environ 300 enfants par jour qui mangent à la cantine sur un effectif de 360 élèves. Donc on a quand même une grosse part de, ce qui s'explique par le fait, j'imagine, que les parents travaillent, les deux parents travaillent, n'ont pas le choix. Donc voilà. Et notre but, ce n'est pas de remettre en cause ça, effectivement, s'il n'y a pas d'autres possibilités. Voilà.
Du coup, ce règlement, au niveau de la phrase qui vous dérange là, Michel, les enfants doivent, est-ce que vous voulez qu'on trouve une phrase différente là pour la mettre en place, parce qu'il va falloir le voter ce règlement intérieur, puisqu'on a le nouveau traiteur à partir du mois de septembre et qu'on n'a pas de conseil municipal d'ici là. Est-ce que vous voulez que collégialement on trouve une phrase adéquate pour remplacer les enfants doivent, ou est-ce qu'on part là-dessus et puis on
en l'amendant
à un prochain conseil municipal.
Je crois que c'est mieux de l'amender, je crois que ça aurait le temps de le...
Je propose qu'on le vote. Abstenez-vous si vous voulez vous abstenir ou voter contre. Hein, et on le repassera en commission affaires scolaires et on retravaillera si vous voulez sur les points.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
Donc, je souscris à tout ce qui a été dit précédemment, il y a d'autres remarques que j'aurais souhaité ajouter. L'article, notamment hein, sur le fond, l'article 6.7, sur le fait de présenter un justificatif de maladie qui est arrivé à un enfant, on sait que souvent les enfants sont malades et n'ont pas nécessairement chez les médecins dans la petite maladie infantile, donc voilà, ça paraît un peu exagéré. L'article 8.3, c'est réglementaire, on ne peut pas refuser l'accès à la cantine aux enfants dont les parents n'ont pas réglé leur facture de restauration scolaire. Donc l'indiquer ici, c'est se mettre en porte-à-faux avec la réglementation. Un enfant ne doit pas être refusé à la cantine et ne doit pas être pénalisé.
Ce qui est interdit, c'est de l'accepter, de ne pas l'accepter s'il est présent. La réinscription n'est pas interdite. C'est-à-dire, pour l'année d'après, on peut refuser la réinscription, ce qui est marqué dans le règlement.
Mais sur
l'année en cours, on pourra rien faire. Par contre, la réinscription, cela, on la bloquera.
Et puis, l'article 10, sur la discipline et la sanction, hein, tout ce qui s'ensuit, à mon avis, cet article est bien trop détaillé et trop coercitif. Je reprendrai un peu dans la même ligne que ce qui a été dit auparavant. Il faut présenter la discipline de manière positive, participation des enfants à l'ambiance générale, à la vie de la cantine, et pas voir ça comme quelque chose de contraignant et de punissable. Enfin, en général, enfin, j'ai regardé un petit peu, souvent le règlement intérieur, même s'il n'est pas signé par les enfants, il est complété en annexe par une charte de vie ou de savoir-vivre qui, elle, est signée par les enfants et les parents. Donc il y aurait peut-être possibilité de faire un document à destination des enfants et des parents pour leur expliquer comment on vit et comment on se comporte dans une cantine de manière respectueuse des autres. Et puis le règlement intérieur qui va reprendre des aspects un peu plus rigoureux
C'est une très bonne idée, la charte de l'enfant, donc on va le retenir, et comme on fera un amendement de ce règlement intérieur, on inscrira la charte de l'enfant que vous travaillerez en commission scolaire, parce que je trouve que c'est une excellente idée. Le règlement, c'est vraiment pour les parents avec ce que leurs enfants doivent respecter au sein de la cantine. La charte de l'enfant, c'est autre chose, et ça sera justement mis en place, enfin, écrit de façon plus accessible pour les enfants.
D'autres questions?
Nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. Donc, pour.
À la majorité.
Excusez-moi, je commence à être fatiguée.
Je préfère juste préciser qu'on comptait s'abstenir au départ et que le fait d'avoir la possibilité de l'amender, notamment avec la proposition de Céline, on vote pour que ça soit prêt en septembre et pour le...
Mais lors de la prochaine réunion de la commission scolaire, on le retravaillera et, comme vient de le dire Madame le maire, la charte pour les enfants me paraît être une bonne solution aussi. Très bien, merci.
Dans le même ordre d'idée, le règlement sur le centre de loisirs et l'espace jeune.
Donc ce règlement était déjà en vigueur à Montferrier au sein de l'espace jeune et du centre de loisirs. On l'a simplement modifié pour tenir compte des étiquettes, puisque le but c'était de pouvoir préciser aux parents comment les repas de leurs enfants dans le cadre du centre de loisirs et de l'espace jeune allaient leur être facturés. La nouveauté, c'est que jusqu'à présent, nous facturions le repas au prix de revient du repas. Or là, ce sera facturé selon les tranches qui existent pour les trois tranches et les tarifs qui existent pour le service de restauration scolaire. Est-ce que vous avez des questions ?
Juste les tranches là, c'est pas les tranches imposées par la CAF, on est d'accord.
Non.
C'est bien un tarif libre que nous fixons.
Exactement.
Et il y a trois tranches pour les repas, mais il y a quatre tranches pour les activités.
C'est ça. Notre but, ça a été d'harmoniser, pour une gestion beaucoup plus simple au niveau du logiciel de restauration scolaire, c'était vraiment de pouvoir harmoniser la restauration scolaire dans le cadre de l'école et la restauration dans le cadre du centre de loisirs et de l'espace jeune. C'est pour ça qu'on est resté sur le même...
des aiguillères, un micro-courrier au Belvédère, tous ces trois arbres remplacent des arbres qui sont morts et de la même essence. Ensuite, il y aura trois tilleuls aux écoles maternelles et élémentaires, selon les vœux de l'école. Deux tilleuls à l'entrée du passage lotissement Lapinède, le de Vézou. Ensuite, deux arbres de Judée, rue Olympe de Gouges. Il y a déjà des emplacements, mais rien n'avait été planté parce qu'on n'avait pas encore eu le temps de s'en occuper. Et deux tamaris sur le parking de la salle du foyer pour terminer le parking du foyer. Voilà. Donc ces arbres ont été choisis dans la liste proposée et seront d'une taille en principe significative. Donc ce ne seront pas de tout petits arbres. Ils parlent de troncs de 8 à 14 cm. La délibération proposée ce jour devra subir quelques modifications, car nous avons reçu des informations cette semaine. Donc, je vais vous énumérer les modifications qu'il faudra apporter, mais j'ai déjà le papier que je confierai au secrétaire pour corriger le texte. Donc, il faudra modifier l'introduction pour y ajouter le terme de préservation de la biodiversité, qui n'était pas la dernière fois. Dans les vertus des plantations, il faudra y ajouter l'abritement de la biodiversité. Le panel des essences à choisir passe de 6 à 34. Donc nous, quand on a choisi, on avait 6 essences. Maintenant, il y en a 34. Mais on ne les a pas vues. Les mesures d'accompagnement seront proposées par le département, auxquelles il faut ajouter la CAVE de l'Hérault. Alors, il nous est précisé ce soir, j'ai eu le mail à 16h, que ces livraisons seront effectuées entre le mois d'octobre et le mois de décembre.